Vous êtes à l'écoute de Conversations RH. Dans cette collection de podcasts, vous allez découvrir des éclairages d'experts passionnants qui vous apportent, chers auditeurs, des réponses concrètes aux problématiques liées aux ressources humaines et à la vie de l'entreprise. Alors n'hésitez pas à découvrir les épisodes des différentes saisons de Conversations RH dans lesquelles nous traitons les ressources humaines sous des angles sociétaux, psycho et techno. Comment faire face au brownout de vos équipes? Les recrutements dans le métaverse sont-ils possibles? Quels sont les bons tips pour les candidats et les recruteurs? Ou encore comment améliorer l'attractivité marque employeur? Toutes ces réponses sont dans Conversations RH. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conversations RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Et encore un grand merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et votre intérêt pour ce programme nous fait énormément plaisir. Alors continuez à nous écrire et à partager vos commentaires qui font grandir notre réflexion sur tous les sujets qui concernent le recrutement en France. Conversations RH, vous le savez, c'est un podcast qui vous est proposé par LHH, cabinet de conseil en recrutement, management de transition et évaluation pour cadres et dirigeants. Et aujourd'hui, nous abordons un enjeu en France, le recrutement des seniors. Et oui, selon le tableau de bord trimestriel de la DARES sur l'activité des seniors, 56,1% des 55-64 ans sont en emploi au quatrième trimestre 2021 et les plus de 50 ans ont en moyenne des taux de retour à l'emploi relativement faibles, seulement 30% au bout de 18 mois. Alors heureusement, certaines entreprises prennent la mesure de la situation et se mobilisent en faveur du recrutement, du maintien dans l'emploi et de l'accompagnement des carrières professionnelles des seniors. L'accord senior 50 ans et plus, lancé par exemple à l'initiative de L'Oréal et dont The Adecco Group est signataire, en est l'exemple parfait et nous aurons l'occasion d'en parler dans ce podcast. Dans cet épisode, nous allons tout d'abord essayer de comprendre ces chiffres. Nous verrons également comment améliorer le recrutement des seniors. Nous verrons les nombreux atouts que ces profils peuvent présenter pour les entreprises et les avantages à faire travailler ensemble différentes générations. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Maldon, directeur des opérations Région et LHH Recruitment Solutions. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Également autour de cette table, Carole Ferté, directrice des études chez Figaro Classifieds. Bonjour Carole.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et également Étienne Gousson, directeur de projet innovation sociale chez L'Oréal. Bonjour Étienne.
Bonjour à tous.
Merci également. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on essaye déjà de comprendre pourquoi le recrutement des salariés seniors est encore difficile. Quelles sont les idées reçues sur les seniors le plus souvent évoquées? Quels sont les stéréotypes qui reviennent? Anthony?
Les poncifs les plus réguliers, on va dire, sont peut-être la difficulté d'intégration avec des équipes plus jeunes. Également le fait que dans l'imaginaire collectif, les seniors vont avoir des positions plus élevées et donc des salaires plus élevés. Ou encore une faible adaptabilité aux nouvelles technologies.
Étienne, du côté de chez L'Oréal, est-ce qu'il y a des stéréotypes qu'il faut combattre en interne?
Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de stéréotypes liés à l'âge aujourd'hui. Donc, c'est un peu le dernier tabou, hein, finalement, que l'on lève là. Et oui, il y a tous les stéréotypes dont on vient de parler. Il y en a d'autres également qui sont liés, par exemple, à la santé. On pense qu'on n'embauche pas un senior parce qu'on pense que voilà, sa santé est fragile.
Carole, est-ce que tu veux compléter ce qui vient d'être présenté comme stéréotype à combattre?
Pour compléter, je dirais, il y a aussi peut-être cet a priori sur le fait qu'ils sont difficiles à manager, du fait de leur expérience, et puis le coût d'une personne plus senior.
Même si les recruteurs affirment ne porter aucun jugement discriminatoire lié à l'âge, il n'en reste pas moins que les seniors sont confrontés à de multiples freins professionnels, je crois, dans leur rapport à l'emploi. Quels sont-ils ces freins professionnels, Anthony?
Potentiellement, des mises au placard, c'est-à-dire des carrières qui peuvent être stoppées ou en tout cas des promotions auxquelles ne vont plus avoir accès ces populations-là. La même chose sur des formations qui peuvent être parfois réservées dans certaines entreprises à ce qu'on appelle des hauts potentiels et dans lesquelles on va pas mettre des seniors. Mmh. Peut-être aussi une transmission au moment du départ qui va être mal assurée. Ouais. Donc tout ça sont des choses qu'on peut rencontrer.
Des freins que vous avez pu observer chez Figaro Classifieds, Carole?
On observe effectivement que eux-mêmes, les personnes seniors, vont s'auto-bloquer et manquer de confiance en elles. Ouais. Et ce qui prouve un petit peu ça, c'est une étude qui a été menée par l'APEC et Pôle emploi qui indique qu'il y a plus de 60% des cadres qui ne se retrouvent pas dans les offres d'emploi, qui ne retrouvent pas leur propre expérience. Donc je pense qu'il y a une forme d'auto-censure de la part de ces personnes qui ont de l'expérience et qui se mettent des freins eux-mêmes.
Étienne, est-ce que cette autocensure, vous la constatez concrètement sur le terrain?
Ah oui, complètement. On a lancé en fait un programme qui est L'Oréal for All Generations. Mmh. Dans le cadre de ce programme, on a interrogé un certain nombre de nos collaborateurs et on s'est bien rendu compte effectivement que certains d'entre eux en fait, s'auto-censurer.
Ouais. Est-ce qu'il y a, d'autres freins que vous avez pu observer sur le terrain à part cette auto-censure?
Alors, si on parle du recrutement, ce qu'on peut voir également, c'est que de la part de certains recruteurs, il peut y avoir la propension à penser que on va pas recruter un senior parce que finalement, on va pas pouvoir le projeter, en fait, dans l'avenir. Donc, le temps qui lui reste à travailler jusqu'au moment de la retraite, en fait, est court. Donc, ce temps restant jusqu'à la retraite peut être un frein au recrutement.
Ça peut être un frein au recrutement. Et pourtant, hein, on va rappeler que toute forme de discrimination, dont celle liée à l'âge, est fortement punie par la loi. Hein. Elle est passible de, je crois, 45 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Donc, ça fait peur. Est-ce qu'il faut déjà penser à changer de vocabulaire et éviter de parler de tout ce qui renvoie à l'âge? Peut-être qu'il faut arrêter de parler de senior, Étienne.
Tout à fait. C'est un sujet, en fait, la question du vocabulaire qu'on utilise. Donc, dans le cadre du programme L'Oréal for All Generations, que nous avons lancé, qui a pour objectif à la fois de valoriser les liens entre les générations, les développer, mais également de mettre en place des mesures en faveur de l'employabilité des seniors, eh bien, on a interrogé un certain nombre de nos collaborateurs.
Ouais.
Et en fait, clairement, le mot senior est à bannir.
Ah, il est à bannir, il plaît à personne, en fait.
Il plaît
mot.
À personne parce qu'en fait, ça renvoie tout de suite à l'image du retraité.
Alors, quel est le mot que vous employez chez L'Oréal?
Nous, on utilise en fait le terme plus expérimenté.
Ah, d'accord.
Parce qu'en fait, finalement, ce qu'ils ont tous de commun, c'est l'expérience. Et c'est ce qu'ils ont envie de valoriser.
Ouais. Est-ce qu'il y a une intention, Anthony, particulière sur les offres d'emploi pour éviter ce genre de termes liés à l'âge, par exemple?
Effectivement, c'est recommandé de ne plus indiquer senior. Alors, on le voit encore dans certaines professions, comme les cabinets d'audit qui vont nous indiquer senior consultant, par exemple.
Ouais. Mais c'est pas lié à l'âge, du coup. Là, c'est plus lié à l'expérience quand on parle d'un senior consultant, si je ne m'abuse.
C'est tout à fait le cas. Mais néanmoins, ce sont des termes qui aujourd'hui ne sont plus recommandés. Et plutôt que d'indiquer consultant senior en anglais, plutôt le mettre en français consultant expérimenté.
D'accord. C'est plus clair et ça évite les méprises par rapport effectivement à la catégorie d'âge. Carole, qu'est-ce que vous en pensez chez Figaro Classified de ce sujet de vocabulaire?
Alors, c'est un sujet qui est extrêmement important, d'autant que vous disiez que ça peut être puni.
Ouais.
Donc, sur Cadre Emploi, qui est un site d'offres d'emploi pour les cadres, on veille d'une part à ce que nos algorithmes enlèvent automatiquement tout élément discriminatoire comme l'âge, qui est automatiquement enlevé. Et on a des équipes dédiées au sein de l'expérience client qui vont aussi accompagner les recruteurs pour re-rédiger leur offre d'emploi pour qu'elles répondent bien aux attentes des candidats. Et pour rejoindre ce que disait Étienne sur le fait que les personnes sont plus expérimentées, on dit aussi que les personnes ont plus d'expertise. C'est vrai qu'on est sur un marché où l'expertise est de plus en plus demandée dans un marché qui est en tension. Et donc, je pense que justement, ces personnes plus expérimentées peuvent faire valoir leurs expertises et leurs multiples expertises qu'ils ont eues au cours des différentes années.
Expertise, expérience, c'est des mots qui sont d'une racine très très proche, c'est la même. Pourtant, il y a une distinction à opérer, d'après ce que je comprends.
Oui, tout à fait. L'expérience, ça renvoie aussi au nombre d'années. Là où l'expertise renvoie vraiment à un point spécifique qu'on a pu acquérir pendant sa carrière et que l'on va pouvoir donner comme atout au futur employeur.
Les mots sont importants et c'est important effectivement de choisir les bons termes pour ne blesser personne et pour être dans une démarche d'inclusion globale. Et j'imagine que ça fait aussi partie de vos réflexions assez profondes chez L'Oréal.
Bien sûr, en fait, c'est la raison pour laquelle on a intégré la question de l'employabilité de façon beaucoup plus large, hein, puisqu'on traite finalement, quand on parle de l'employabilité, du recrutement des seniors et des plus expérimentés, on traite vraiment un sujet de société aujourd'hui, qui est celui-ci, qui est celui de l'inclusion. Et c'est totalement un des objectifs principaux, justement, cette question de l'inclusion. Et d'ailleurs, en interne, on a travaillé beaucoup avec les équipes de diversité et d'inclusion au sein de L'Oréal.
J'aimerais qu'on parle maintenant tous ensemble des atouts d'un profil senior pour les entreprises, car ils sont nombreux.
Effectivement, ils sont nombreux et un des premiers qui me vient en tête, qui est souvent demandé par les recruteurs dans le cadre de recherche de candidats, c'est cette capacité évidemment à avoir un savoir-faire, une expertise dans un domaine recherché, mais c'est aussi un savoir-être qu'ont pu acquérir les différents personnes expérimentées ou qui ont de l'expérience depuis quelques années. Et puis, c'est aussi de l'expertise et aussi ils peuvent bénéficier d'un carnet d'adresses puisqu'ils ont tout au long de leur carrière rencontré différents prestataires. Ils peuvent connaître des agences, des prestataires, des clients qui peuvent être un atout pour les entreprises. Et puis, le dernier élément qui me vient en tête, c'est une expression que j'emploie souvent, c'est finalement une personne qui est jeune, elle court plus vite. Mais une personne qui est expérimentée, elle a ce recul et elle peut prendre les raccourcis. Et puis, dans un cadre où les entreprises recherchent de plus en plus du ROI, eh bien là, je crois qu'on balaye un petit peu ce cliché dont on a parlé au départ. C'est une personne qui prend les raccourcis, mais c'est une personne aussi qui va plus rapporter à l'entreprise du fait de cette capacité à aller plus vite, à prendre le raccourci.
Anthony, quels sont les atouts, selon toi, de recruter ces personnes expérimentées?
Je rajouterais la motivation. La motivation, en fait, dès le processus de recrutement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, en général, prennent beaucoup de recul avant de postuler à une offre. Et du coup, pour nous, c'est très agréable puisque ce sont des personnes qui se désistent beaucoup moins que les autres candidats pendant le processus de recrutement, mais également une fois qu'ils ont rejoint l'entreprise. Ils cherchent vraiment un challenge, hein, contrairement justement aux idées reçues qu'on peut avoir sur des salaires élevés, etc. Ce qui va les intéresser, c'est le contenu. Mmh. Et donc, du coup, une fois qu'ils ont rejoint une entreprise, ils peuvent se projeter sur le plus long terme avec plus de fidélité. Et enfin, dernier point, je trouve que ce sont des populations qui ont une vraie capacité à gérer la pression, à avoir une belle stabilité émotionnelle, ce qui s'explique par les nombreuses situations auxquelles ils ont pu être confrontés. Et du coup, avoir peut-être déjà des réponses à apporter rapidement sans subir justement cette pression.
Mmh. Étienne, vous avez dit en préparant ce podcast qu'il participe à construire une culture de la transmission dans l'entreprise. On n'est pas très loin également de participer à cette culture d'entreprise finalement, ces personnes expérimentées.
Complètement. Ce sont des gens effectivement qui ont un parcours, une expérience forte qui leur permet de transmettre. Mais ce qu'on entend aussi beaucoup de la part de nos collaborateurs, c'est oui, on est prêt à transmettre, mais ce qu'on veut, c'est continuer à contribuer. Et il y a peut-être un point pour compléter ce que vient de dire Anthony qui est assez intéressant, c'est que pour un certain nombre d'entre eux, cette dernière partie de carrière, ils l'envisagent différemment. Ils l'envisagent différemment parce que ils ont déjà accompli beaucoup de choses. Donc, ils sont plus forcément dans cette attente d'une carrière, d'un parcours de carrière ascensionnel. Pour un certain nombre d'entre eux, finalement, ce qu'ils recherchent, c'est le sens, c'est de continuer à contribuer,
d'être utile.
Et en fait, finalement, pour certains, ils sont tout à fait prêts aussi à lever un petit peu le pied parce qu'ils ont beaucoup donné. Et donc, des mouvements qui soient plus horizontaux, finalement, peuvent tout à fait leur convenir. Et puis, ce qui va dans ce sens-là également, c'est que ce qu'on voit sur cette tranche d'âge, eh bien, finalement, c'est aussi, pour un certain nombre d'entre eux, plus de flexibilité, notamment en termes de mobilité. Parce que bah ils se sont affranchis en fait d'une partie de leurs obligations, les enfants sont peut-être maintenant autonomes et donc finalement ils sont aussi beaucoup plus disponibles pour peut-être justement partir à l'étranger, être en mobilité, changer de métier.
Est-ce qu'ils sont enclins à se former régulièrement? On parle de changement de métier. Carole, est-ce qu'on observe que ces personnes expérimentées sont OK pour se former ou alors qu'au contraire, ils sont assis sur de telles expériences que ça suffit pour eux?
Alors, je pense que ça va dépendre aussi des domaines d'activité dans lesquels on travaille. Mais globalement, je pense que tous les domaines sont impactés par la révolution numérique. Et donc, si on veut perdurer dans ces domaines-là, il y a une nécessité à se former régulièrement. Et donc, c'est également les personnes expérimentées qui vont continuer à se former sur ces sujets-là parce que bah, je pense que quand on a de l'expérience, on a envie de continuer à apprendre.
Il n'y a pas de barrière du point de vue de ces populations-là sur le fait de se former régulièrement.
Non, au contraire, il y a une envie de continuer à se former, je dirais, jusqu'au bout.
Il y a un contexte en ce moment qui est marqué par le phénomène de grande démission avec un niveau historiquement haut de démission atteint au début de l'année 2022. Il y a des métiers en tension. Est-ce que l'embauche des seniors, elle peut être une réponse à la pénurie des talents, Carole?
Très clairement, les métiers sont globalement tous en tension. Donc tension, ça veut dire que les recruteurs ont des difficultés à trouver les talents. Ils sont 84% d'entre eux à estimer que les recrutements sont difficiles cette année. Et on peut évidemment naturellement penser que les personnes expérimentées, vous donniez quelques chiffres au début de ce podcast sur le taux d'emploi et de réemploi qui décline en fonction de l'âge. Donc clairement, au vu de ces deux éléments, les personnes expérimentées constituent un vrai vivier de candidats pour les recruteurs.
Anthony, j'ai l'impression que les entreprises ont un rôle à jouer pour donner confiance à ces personnes expérimentées par rapport à leur profil.
C'est une certitude. Il faut que les candidats se sentent en confiance lorsqu'ils vont postuler, qu'ils pensent qu'ils ont les mêmes chances que l'ensemble des autres candidats potentiels. Et donc, dans leur façon peut-être de diffuser des annonces, de communiquer sur leur volonté d'être inclusif, au sens large du terme, que ce soit sur de la mixité, de la diversité, mais également des profils expérimentés, je pense que les entreprises ont un rôle à jouer. Et au final, tout le monde sera, je dirais, gagnant-gagnant. Ce sera vraiment des win-win. Les entreprises auront plus de candidats potentiels et les personnes expérimentées, plus d'offres potentielles.
Étienne, est-ce que ces expériences, ces expertises arrivent à ruisseler naturellement dans l'entreprise? Est-ce que l'intégralité des collaborateurs arrive à bénéficier de ces expériences? Ou alors c'est un petit peu difficile de créer le pont entre les générations?
Non, il y a beaucoup d'attentes, de toute façon, déjà aujourd'hui, de la part des plus expérimentés dans l'entreprise. Nous, ce qu'on voit clairement, c'est que les collaborateurs, en fait, qui aujourd'hui se forment tout au long de leur carrière, et c'est pour reprendre ce que disait Carole, eh bien, ce sont eux qui continuent à avoir en fait des parcours de carrière qu'on va appeler aspirants. En tout cas, c'est vraiment le dénominateur commun de chacun d'entre eux. Donc, la question de la formation est claire. Également pour illustrer ce que disait aussi Carole tout à l'heure sur l'autocensure, en fait, une des premières actions que nous pouvons faire entreprise, c'est justement mettre en place un dispositif pour accompagner nos collaborateurs de façon à lutter contre les stéréotypes.
Mais du coup, est-ce qu'il y a du jeunisme? Voilà, concrètement, chez L'Oréal, est-ce qu'il y a une tendance au jeunisme et à stigmatiser un peu les personnes plus expérimentées, plus âgées? Ou est-ce qu'au contraire, il y a, on va dire, un attrait naturel pour aller parler à ces personnes plus âgées, pour comprendre, pour apprendre, pour aller plus vite finalement en bénéficiant de cette sagesse?
Ce qu'on voit en fait de toute façon aujourd'hui, c'est que les équipes qui fonctionnent le mieux, ce sont les équipes intergénérationnelles.
D'accord, c'est là où ça s'est fait.
Ça c'est très clair.
Le pont s'est fait.
Et c'est une des raisons d'être en fait de notre programme, L'Oréal for All Generations, c'est justement de valoriser ces parcours de plus expérimentés et d'en faire profiter les plus jeunes.
Ouais, je comprends. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour améliorer le recrutement des seniors? Carole Ferté.
Là, je rejoins ce que disait Anthony tout à l'heure. Donc, avant tout, le recrutement, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre un recruteur et un candidat. Et donc, il y a deux parties prenantes. L'offre d'emploi, ça illustre cette rencontre-là. Et dans les deux parties prenantes, côté recruteur, je pense qu'il y a des efforts à faire. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Anthony. Donc, c'est cette capacité à comprendre quels sont les atouts des candidats plus expérimentés et pourquoi pas à les mettre en avant dans l'offre d'emploi pour que, justement, ces personnes se retrouvent dans l'offre d'emploi. Je rappelle qu'il y a 62% des seniors qui ne se retrouvent pas dans les offres d'emploi. Donc, en travaillant ces éléments-là, ils vont mieux se retrouver dans l'offre d'emploi. Et puis, comme on parlait de rencontres, il y a une deuxième partie prenante. C'est évidemment les candidats. Mmh. Et donc là, il est propre à chacun de ces candidats de démontrer leur atout dans la phase de recrutement. Donc, ils peuvent démontrer leur adaptabilité en balayant les clichés qu'on a évoqués au début de ce podcast. Ils peuvent montrer les formations qu'ils ont réalisées, booster leur visibilité sur les réseaux sociaux. Ils peuvent aussi élargir leur périmètre de recherche. Ça peut être, vous l'évoquiez tout à l'heure, Étienne, géographique, élargir cette visibilité. Et puis, ils peuvent aussi solliciter un bilan de compétences et puis, évidemment, mettre en avant tous leurs atouts qu'ils pourront donner à l'entreprise.
Il y a des solutions, il y a des pas à faire des deux côtés, acquérir un peu plus de confiance en soi du côté des personnes expérimentées et faire un pas du côté des entreprises pour davantage proposer d'offres et davantage inclure ces populations au sein de leurs effectifs. C'est ce que je comprends.
C'est exactement ça. Ouais. Justement pour favoriser cette rencontre entre ces deux parties prenantes.
Ouais. Anthony, est-ce que tu veux compléter ce que vient de dire Carole?
Le seul point moi, sur lequel j'irais également, c'est potentiellement communiquer et surcommuniquer. C'est-à-dire que les combats qui peuvent tourner autour des discriminations, quelles qu'elles soient, ne sont jamais gagnés d'avance. Et en fait, il faut toujours rappeler combien c'est important d'avoir des consultants expérimentés, rappeler, comme le faisait Étienne, que les équipes les plus performantes sont les équipes les plus inclusives. Et ça, je pense que peut-être qu'on le voit pas assez dans la presse, qu'elle soit écrite ou télévisuelle.
Étienne, est-ce que vous avez aussi des solutions, des idées pour permettre d'améliorer ces recrutements de personnes expérimentées?
Il y a le recrutement et puis il y a aussi effectivement ce que l'on fait en matière d'employabilité pour nos collaborateurs aujourd'hui qui sont expérimentés. Et on ne peut que inciter finalement nos collaborateurs à être acteurs. Ça rejoint la démarche que partageaient Carole et Anthony, de façon à être acteurs et pouvoir en effet, si vous voulez, à la fois mettre en avant leurs compétences, mettre en avant leur expérience. Et nous, on a développé en fait en interne une formation qui permet aux collaborateurs justement de travailler cela sous la forme d'un pitch, par exemple.
D'accord. Un pitch qui raconte quoi?
Un pitch qui leur permet de mettre en avant justement leur expérience, leurs compétences.
Ouais.
Et en fait, de postuler.
Il y a un rôle important de l'État. On le disait, c'est un sujet de société. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour favoriser l'emploi des seniors. Est-ce qu'on peut les rappeler, Carole?
Oui, tout à fait. Les entreprises peuvent s'appuyer sur différentes mesures qui existent justement pour favoriser l'employabilité de ces personnes-là. Il y a le CDD des seniors qui permet aux entreprises de rallonger la durée d'un CDD qui normalement ne peut pas aller au-delà de 18 mois. Ils peuvent être portés à 36 mois, notamment peut-être pour aller jusqu'à l'âge de la retraite pour certaines personnes. Il y a également le parcours emploi compétences, le contrat de professionnalisation. Donc, l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi âgé de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation peut bénéficier d'une aide de l'État de 2000 euros. Et puis, il y a le CDI inclusion. Donc, il y a de nombreux projets sur lesquels peuvent s'appuyer les entreprises pour embaucher ces personnes plus expérimentées.
Donc, il y a un cadre, il y a une dynamique au niveau de l'État. Et en interne, Étienne, comment on peut valoriser le recrutement des seniors? Comment on peut faire passer le message en interne?
C'est vrai qu'il y a des mesures. Déjà, je veux juste rebondir sur dit Carole. Il y a des mesures qui existent aujourd'hui, mais à notre sens, on pourrait aller plus loin. Notamment parce qu'on a vu tout à l'heure qu'un des freins, c'est le coût. Il y a eu des propositions d'ailleurs qui ont été faites par notre ministre du Travail, Olivier Dussopt. En tout cas, c'est des idées qui sont sur la table, de façon à pouvoir accompagner les entreprises d'un point de vue financier également. Et je pense que ça, c'est une des voies, en fait, tout ce qu'on peut faire, hein, tout ce qu'on peut mettre en place comme cadre qui va faciliter, accompagner le recrutement, c'est vraiment très, très bien. Mmh. Et en interne, nous, ce que l'on
encore
fait...
Encore faut-il que le mot se passe en interne et qu'il y ait de vraies démarches dans tous les services. Et j'imagine que vous avez communiqué, surcommuniqué en interne. Comment ça s'est passé chez L'Oréal?
Nous, notre objectif principal, hein, le premier objectif, c'est quand même le maintien dans l'emploi. Hein, parce que finalement, c'est peut-être la meilleure solution pour éviter justement qu'il y ait des expérimentés qui se retrouvent sans emploi. C'est déjà les maintenir dans l'emploi. Donc ça, c'est vraiment notre premier objectif. Et sur le recrutement, bien entendu, en fait, ça passe beaucoup par la sensibilisation des équipes de recrutement.
Par des formations, des e-learning.
Oui, bien sûr. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, on a mis en place, en fait, chez L'Oréal, un e-learning qui s'adresse à tous les collaborateurs dans le monde entier sur la question des stéréotypes liés à l'âge.
D'accord, un e-learning qui permet d'acculturer voilà. Tout le monde à ces sujets.
Et ce qui permet de mettre en valeur justement ce dont on a parlé, hein, c'est-à-dire les atouts de l'emploi de plus expérimenté.
Carole, vous dites qu'il faut mettre en place une réelle stratégie de management intergénérationnel dans l'équipe RH. Alors, on doit faire des stratégies de management RSE, intergénérationnel. Bon, il y a plein de stratégies à mettre en œuvre, mais du coup, comment ça se passe concrètement?
C'est ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que l'efficience aussi des entreprises va venir aussi de ce partage de connaissances intergénérationnelles. Donc, il y a plein de manières de le mettre en place, notamment sous forme de mentorat, où les personnes expérimentées vont avoir un vrai rôle d'accompagnement sur des personnes qui arrivent sur le marché, qui n'ont pas nécessairement l'expérience, le savoir-faire dont on parlait tout à l'heure. Donc, le mentorat est un élément qui peut favoriser justement ces échanges intergénérationnels où chacun pourra apprendre des deux parties, je dirais.
Anthony, en préparant l'émission, tu nous disais que l'entreprise a aussi un rôle hyper important dans l'accompagnement de ses profils vers la retraite. Quel est-il, cet accompagnement si important?
L'accompagnement, il est important à la fois pour le collaborateur qui va partir en retraite, mais également pour l'entreprise, puisque l'idée, c'est que les compétences, je dirais, ne soient pas perdues, mais en même temps que la personne se sente valorisée. Donc, de manière assez simple, je pense qu'il faut peut-être 1 an, 2 ans avant le départ en retraite, mettre en place un parcours de mentorat, de tutoring avec la personne qui pourrait prendre le poste derrière, le plan de succession. Et ça contribuera aussi à faire baisser, je pense, le taux de turnover dans les entreprises, qui est un autre sujet important en ce moment.
Absolument. Pour conclure, est-ce que vous êtes confiants tous les trois pour les seniors, pour leur carrière professionnelle, Anthony?
Confiance, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une vraie carte à jouer, puisque les entreprises, et notamment les plus grandes entreprises, ont pris conscience quand même de la nécessité d'être plus inclusifs. Quand ils n'en ont pas pris conscience, ils sont poussés aussi par les nouvelles générations qui ont cette volonté-là d'avoir des politiques RSE plus développées. Et enfin, sur certaines populations seniors, nous, on voit quand même qu'ils tirent leur épingle du jeu. Je pense au management de transition, je pense également au recrutement de cadres dirigeants. Donc, il y a de vrais atouts.
Carole?
Alors moi, je suis confiante, mais ça nécessite encore énormément de démarches de la part des entreprises, même si on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. On est sur des biais cognitifs qui sont importants, donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus, de la part des entreprises, et puis vraiment que les personnes expérimentées aient plus confiance, justement pour favoriser un meilleur emploi de ces personnes-là, des expérimentées.
Étienne, c'est quoi l'étape suivante chez L'Oréal en faveur de l'inclusion de ces profils?
Alors, oui, il y a chez L'Oréal, et puis il y a de façon plus globale, oui, on est confiant, à condition de faire bouger les lignes. Et c'est la raison pour laquelle on a signé donc un acte d'engagement sur la place des plus de 50 ans en entreprise, avec plus de 30 entreprises aujourd'hui, dont Adecco. Et puis, je pense que si on veut vraiment accélérer sur la question du recrutement des plus expérimentés, il faut aussi donner plus de flexibilité. Donc, on parlait tout à l'heure des mesures qui pourraient favoriser effectivement le recrutement, l'emploi. Ça peut aussi passer par des formes de contrats différents. C'est-à-dire de se dire aujourd'hui, finalement, peut-être que s'il y a quelques réticences en fait à embaucher des plus expérimentés, pourquoi pas passer par des contrats de consulting, des contrats de portage ou de management de transition, par exemple.
Ouais. Merci beaucoup, Bouger les lignes. C'est également la raison qui nous a poussé à enregistrer ce podcast aujourd'hui. Merci, Anthony, d'avoir été avec nous à distance. Je rappelle que tu es directeur des opérations région LHH Recruitment Solutions. Merci pour tout.
Avec plaisir.
Merci, Carole Ferté, directrice des études chez Figaro Classifieds. Merci beaucoup.
Merci à vous également.
Merci également à Étienne Gousson, directeur de projet innovation sociale chez L'Oréal. Merci, Étienne.
Merci à vous, ce fut un vrai plaisir.
C'est partagé, Étienne. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Et d'ici là, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. À très bientôt.